et les bords, minuit.
De l'eau sur Mars.
De l'eau sur Mars, sur et les bords, la nuit à partir de minuit, le secret.
Sur et les bords.
I'm not afraid to die. Il était une fois, dans une époque indéfinie, une jeune fille qui rêvait tout le temps. Elle ne connaissait de la vie que ce qu'elle mettait dans ses rêves. À l'école, elle voyait ses personnages inventés se promener entre les rangs. Elle les visualisait nettement, tout en étant présente au cours. Elle avait cette capacité étrange de vivre dans deux univers, l'un imaginé, l'autre réel. Elle faisait un va-et-vient entre les deux avec souplesse. Ses rêves ne ressemblaient pas à ceux des jeunes filles de son âge. Elle rêvait d'escalader les pyramides en s'appuyant sur un roi d'Égypte qu'elle soignerait par ses sourires et ses caresses. Elle rêvait de diriger un orchestre symphonique dans une grande salle qui serait remplie de sa famille et de ses amis. Chaque musicien aurait une étoile qui brillerait au-dessus de la tête, une grâce déposée par des anges sur l'ensemble des participants. Elle rêvait de faire la traversée de l'Atlantique en solitaire, mais elle y renoncerait parce qu'elle ne savait pas nager. Elle s'imaginait en femme imam présidant la prière dans une grande mosquée et faisant un prêche qui rappellerait l'amour du prophète pour les femmes. Elle rêvait d'être un moineau qui volerait de branche en branche et donnerait des réponses aux buissons de questions. Elle rêvait d'être la sœur de Scheherazade et assisterait à la première nuit d'amour avec le prince. Elle se ferait plus petite que d'habitude, mais ne manquerait rien du spectacle. Elle rêvait de diriger un hôpital et d'être munie d'une baguette magique. Elle rêvait de dattes grasses d'Arabie et d'un bol de lait de chèvre. Elle rêvait de ne plus avoir mal au dos à la fin d'une longue journée de travail. Elle rêvait de longues journées d'été, sous un arbre, entourée de ses personnages, mangeant du raisin et des fruits venus de pays lointains. Elle rêvait de pouvoir rêver tout le temps. Pour cela, elle devait travailler davantage.
We'll be right back.
de l'eau sur Mars, sur Elébor.
Harvey, le riche, était finalement le plus gentil de toute la bande. Peut-être parce qu'il en avait les moyens. Je me suis rappelé une phrase que j'avais lue, un aphorisme de vieux chinois. Désirez-vous être riche ou bien artiste ? Je désire être riche, parce que l'artiste s'assoit toujours sur le perron du riche. Je me suis remis à ma bière et j'ai oublié l'incident. La fête s'est terminée, je ne sais plus comment. Je me suis retrouvé sur la banquette arrière de ma voiture, avec Hollis au volant et la barbe de Roy sous le nez. Je me suis remis à ma bière. Et les mecs, vous n'avez pas jeté mon petit cercueil ? Je vous aime bien, vous deux. Pourquoi avez-vous jeté mon petit cercueil ? Écoute, Bukowski, le voilà ton cercueil. Roy me l'a mis sous le nez. Ah, tant mieux. Tu veux que je te le rende ? Non, non, c'est un cadeau. Ton seul cadeau. Garde-le, tu me feras plaisir.
D'accord.
Le reste du trajet a été remarquable de silence. J'habitais une petite rue sur le boulevard, pas loin d'Hollywood, évidemment. Pas moyen de se garer. Hollis a déniché une place à 100 mètres de chez moi et a garé la bagnole. On m'a tendu les clés. Je les ai vus traverser la rue jusqu'à leur bagnole à eux. Je les ai suivis des yeux. J'ai fait un pas et je les regardais encore. Ma bouteille à la main. Quand je me suis pris le pied dans mon pantalon. Mon premier réflexe en tombant a été d'empêcher cette bonne bouteille de cogner le ciment. Maman et bébé. Et comme je tombais sur le dos, d'atterrir sur les épaules en tenant haut la tête et la bouteille. J'ai sauvé la bouteille, mais pas la tête, qui s'est farci le trottoir. Bang. Les deux autres se sont arrêtés et mon regard est tombé. J'étais sonnée, au bord de l'inconscience. Mais j'ai réussi à me faire entendre. « Roy, Hollis, ramenez-moi à ma porte, j'ai mon compte !» Ils ont regardé le spectacle pendant un moment, puis ils sont montés dans leur tir. Ils ont mis le contact et démarré sur les chapeaux de roue.
Yeah.
Patrick de Clercq, Les Naufragés, extrait. J'ai fumé ce matin. Je ne suis pas dans mon état normal. C'est juste pour me mettre en train. Il y en a d'autres que moi qui fument ici. C'est pareil que de picoler. Eux aussi ont des problèmes. Ils ont mon âge. Ils ont 30 ans. C'est des mecs, ils ont déjà goûté avant. On doit être 7, 8. On est entre nous. Un petit monde à part. On ne se mélange pas. De toute façon, on ne peut pas se mélanger. C'est pas pareil que l'alcool. C'est totalement différent. Il y en a qui ont l'alcool agressif. D'autres, pas agressif. On est dans notre petit milieu. On a chacun son truc. L'alcool, c'est pas pareil. Chacun son truc, quoi. L'alcoolique boit du vin parce qu'il a trouvé cette déviation pour pas trop penser. Nous, on a trouvé une autre déviation, pour pas trop penser en soi-même. Tous les sens sont en éveil. Bon, c'est sûr qu'on pense. Mais bon, je vais arriver par perdre le fil de ce que je dis. L'alcool, c'est pas pareil. C'est pas pareil, l'alcool. On reste entre nous parce qu'on se sent bien entre nous. L'alcoolique, c'est pas pareil. Je pense pas qu'un alcoolique s'entende bien avec nous. L'alcoolique, s'il a l'alcool méchant, il va pas s'entendre avec nous. Nous, comme on n'est pas méchant, on n'est pas agressif, et je crois qu'on ne peut pas être agressif. Là, je parle pas beaucoup, parce que je suis dans un petit monde, mais si j'étais hostile, c'est sûr que j'arrêterais pas de parler. Je n'arrête pas de fumer. Quand il n'y en aura plus, eh bien ce sera terminé. De toute façon, je vous ai prévenu, c'était la dernière, après j'arrête. Je me rappelais même plus que c'était aujourd'hui. Ça n'a rien à voir avec l'entretien. Non, je n'y pensais même pas. Je pensais que c'était la semaine dernière. Et puis, en fin de compte, je me suis demandé si ce n'était pas aujourd'hui. Mais bon, non, ça n'a rien à voir, ce ne serait pas correct. Je suis pas dans mon état normal. En plus, j'ai pas tellement envie de parler, là. Je n'ai pas récupéré mon droit de sortir le soir. Il faut que j'aille voir Madame Lucien, la surveillante. Je ne sais pas ce qu'elle a décidé. Je verrai bien. Si elle me raconte les mêmes conneries qu'elle m'a racontées l'autre fois, moi je veux bien. De toute façon, ils sont tous au courant de ma situation, alors. Ils savent que je bois. Parce que même, ils avaient ramené un rapport chez Madame le directeur, il paraît qu'il fallait pas m'empêcher de dessiner ceci, cela, mais le dessin, niette. Je suis vraiment bloquée. J'ai essayé de dessiner hier soir. Pas possible. J'arrivais pas à dessiner. Pas possible. J'arrive pas à me concentrer sur quelque chose.
We'll be right back.
Nous étions tous massés sur le pont pour guetter l'apparition, à l'horizon, de la Statue de la Liberté. Le transatlantique semblait avoir de plus en plus de peine à avancer. Que se passait-il donc ? Le front barré de rides, le capitaine paraissait aussi désorienté que nous. Le navire faisait presque du surplace et pourtant la chaudière était bourrée à bloc. Un cri de soulagement jaillit soudain de la gorge des passagers, aussitôt suivi d'un cri de déception. Nous venions d'apercevoir la fameuse statue se découpant sur l'azur, le temps d'un éclair. Car à présent, non seulement le navire n'avançait plus, mais il reculait. Le capitaine, pressé de questions, finit par avouer qu'il n'y comprenait rien. C'est alors qu'une voix forte se fit entendre à l'arrière du bateau. « Venez tous, je vous expliquerai ce qui se passe. » Nous accourûmes. Un homme, accoudé au bastingage, nous attendait muni d'un grand couteau. « N'ayez pas peur, je vais vous donner la solution de votre problème. Si le bateau n'avance plus, c'est qu'il est retenu par une amarre. Et cette amarre, c'est moi qui l'ai attachée. Regardez. » Nous suivîmes son conseil. Ce qu'il nous désignait de la pointe du couteau, c'était, solidement noué à la rambarde, un puissant élastique dont l'autre extrémité se perdait dans l'océan. L'homme eut un rire hystérique. Avant de partir, j'ai fixé un bout de l'élastique à l'anneau qui se trouvait sur le quai du Havre. Et maintenant que l'élastique est tendu au maximum, je vais le trancher. Savez-vous ce qui arrivera ? Le savez-vous ? Non, répondîmes-nous avec ensemble. Eh bien, ma femme, à laquelle j'ai donné rendez-vous sur la grande place de Tobolsk, près de la fontaine, sera tuée à plus de 12 000 km d'ici par le retour de mon élastique meurtrier. Un cri d'horreur fusa de notre groupe. Le démon venait de joindre le geste à la parole. L'élastique disparut en sifflant sous les eaux. Quant au navire, brusquement libéré, il s'éleva à une allure prodigieuse au-dessus des vagues. Notre voyage aérien se termina le mieux du monde. Nous atterrîmes en douceur à Los Angeles, où une providentielle fabrique de matelas nous sauva la vie. Inutile de préciser que l'assassin est encore pour un bon moment dans la prison de San Quentin, où aucun d'entre nous n'a été lui porter d'orange. Aller-retour, extrait de « Four Roses for Lucienne » de Roland Topor.
Tes lèvres fines et souples comme les branches du saule, a-t-il osé dire, il le croyait, il l'a cru. Tu es fort comme le taureau et tu excelles en exclamation, a-t-il osé proférer. Elle le croyait et il a cru. Tu es douce ainsi que l'ardoise sèche et polie, a-t-il osé dire. Et elle le croyait. Et elle descendre. A-t-il osé prétendre? Il le croyait. Et elle l'a cru. Tu es celui que j'attendais. A-t-elle osé prétendre? Je te connais comme si je t'avais faite. A-t-il osé prétendre? Sans toi, je ne pourrais vivre. A-t-elle osé proférer? Je voudrais me baigner dans ton sang. A-t-il osé proférer? Abondance sans roue, comme il pleut.